Eh bien, je suis heureux de vous saluer les uns et les autres. Et ça ne nous rajeunit pas ce que notre pasteur Pierre Marques a dit en introduction. Je ne vais pas rajouter sur mon cursus, ce n'est pas la chose la plus importante ce matin. La chose la plus importante ce matin, comme cela nous a été dit dès le début de ce culte, c'est de venir auprès et aux pieds du Seigneur, notre Dieu. Tels que nous sommes, avec nos casseroles si nous en avons, nos galères si nous en avons, notre joie si nous en avons, nos peines, bref, tels que nous sommes. Et dans cet esprit-là, d'écoute de ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à notre esprit, je vous propose de suivre avec moi la lecture de ce texte sur lequel nous méditerons dans quelques instants, texte qui est tiré de l'Évangile selon Matthieu. C'est au chapitre 25 et ce sont les versets 14 à 30. Alors, je ne suis pas très familier avec ça, donc j'espère qu'en même temps que je vais faire apparaître le texte, il n'y aura pas de décalage. Eh bien, on verra bien. Donc, j'appuie là-dessus. Formidable. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Alors son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux. Ah, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Mais il te fallait donc mettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent. Donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors, la plupart d'entre vous connaissez ce texte. Pour ma part, c'est ce que moi j'appelle des textes d'école du dimanche, parce que On a une explication relativement simple, on peut faire des scénettes avec les enfants et raconter l'histoire de manière très, très gaie, très, très vivante. En fait, cette parabole, vous le savez, parle du retour du Seigneur. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai affiché ce parier sur le retour de Jésus. Ben, c'est tout simplement parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je cite mes sources, dans le journal Le Parisien, qui lui-même faisait référence à un site interdit en France, mais via Internet, on peut y aller, sur lequel on peut parier sur tout et n'importe quoi. Qui va gagner à l'Eurovision? Qui sera le prochain président des États-Unis? Est-ce que la guerre en Iran va se terminer avant la fin du mois? Et, entre autres, est-ce que Jésus reviendra avant la fin 2027? Alors, il y a une arnaque là derrière. Et ceux qui gagnent de l'argent ne sont pas les parieurs, mais les propriétaires du site. Mais c'est juste intéressant de voir que 97% des gens pensent que Jésus ne reviendra pas avant fin 2027, alors que 3% pensent que Jésus reviendra avant fin 2027. Ce sondage, ce pari, et je vous laisse en penser ce que vous avez envie d'en penser, fait écho à aussi un certain nombre de publications qu'on voit fleurir depuis longtemps, mais de plus en plus via justement nos réseaux sociaux, et qui tentent de décrypter l'actualité, les manœuvres géopolitiques pour essayer de les faire coller avec tel ou tel texte biblique, pour essayer de comprendre où on en est sur l'agenda de Dieu, quelle heure est-il à l'horloge d'Israël, vous vous souvenez peut-être pour certains parmi vous de ce titre fameux d'il y a plusieurs décennies en arrière. C'est une curiosité, somme toute, bien naturelle. Et même si nous n'allons pas dans ce sens-là forcément, je pense qu'on aimerait bien savoir quand même quand le Seigneur reviendra. Et je pense même qu'à certains moments, on s'assied les bras ballants et découragés pour dire « Vivement, Seigneur, que tu sois de retour, parce que ça devient de plus en plus compliqué. » Alors nous sommes en bonne compagnie, parce que les disciples eux-mêmes ont posé cette question. Et au début du chapitre 24, le texte est affiché, alors que ils font remarquer à Jésus la magnificence du temple et que Jésus leur dit que il va rester bientôt aucune pierre, que ce temple va être détruit. Les disciples disent « Mais alors Seigneur, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» La question n'est pas nouvelle. Et d'ailleurs, les disciples vont retenter leur chance après la résurrection et un petit peu avant l'ascension, pour reposer la même question à Jésus, avec le même style de réponse. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec tout le respect que je dois pour le Seigneur, je trouve que Jésus est agaçant, parce que bien souvent, il a le génie de ne pas donner la réponse aux questions que nous attendons, ou de prendre des chemins assez compliqués, de déplacer les choses, une manière somme toute finalement assez fine de nous faire comprendre que l'important n'est pas tant dans la réponse que nous pourrions avoir, mais que dans quelque chose que nous avons omis et qu'il est important pourtant de retenir. Alors, Jésus va faire une très longue réponse à une question, très simple, parce qu'il aurait pu dire « je reviens en telle année » ou « ça ne vous regarde pas » ou que sais-je, non. Et il va prendre ces deux chapitres, Matthieu 24 et Matthieu 25, pour répondre à la question. Et alors, de ces chapitres, s'en dégagent plusieurs affirmations, plusieurs vérités essentielles. Et c'est là où je touche mes limites de cet appareil, parce que certains reappuieraient, et puis il y aurait des choses qui apparaîtraient entre, je ne sais pas le faire. Donc écoutez bien. La première des choses que Jésus dit, et ça nous paraît peut-être une évidence, mais j'ai le sentiment que quelquefois nous vivons comme si ce n'était pas une évidence. Dans ces chapitres, la première chose que Jésus dit, c'est « ben oui, je reviendrai ». C'est sûr, c'est clair. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'il rajoute aussi, et vous retrouverez les versets, par exemple, dans le chapitre 24, les versets 36 à 37, ce qu'il rajoute, c'est « mais ce sera de manière soudaine, au moment même où vous ne vous y attendrez pas ». Et puis, il continue en disant « bon, il y aura du chaos, des troubles, mais ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur ». Donc, je reviens, ce sera soudain, n'ayez pas peur. Et en même temps, je vous préviens, la situation sera compliquée, en particulier pour les chrétiens. Et là, Jésus n'enrobe pas la pilule dans du sucre, il parle clairement d'une opposition frontale que les chrétiens subiront. Et partant de cela, il dit « soyez fidèles, soyez prêts, en sachant qu'à un moment ou à un autre, c'est-à-dire en bout de course, il faudra rendre des comptes. » Et l'apôtre Paul le dit d'une autre manière dans l'Épître aux Romains, quand il dit que chacun rendra compte pour lui-même, et quand il écrit aux Corinthiens, quand il dit « il faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ ». Alors rassurons-nous, pas d'angoisse. Nous avons, dit l'Écriture, un avocat auprès du Père. N'empêche que nous aurons les uns et les autres à rendre compte de ce que nous avons fait de notre christianisme, de ce que nous avons fait de notre foi, de ce que nous avons fait de notre consécration au Seigneur. Et alors, pour faire passer tout ça, ou pour plus exactement, mieux encore, pour insister, alors Jésus va raconter trois paraboles. La parabole du serviteur fidèle, la parabole des, alors selon nos vieilles versions, on dit des 10 jeunes filles ou des 10 vierges, les 5 sages, les 5 folles, et puis cette fameuse parabole que nous venons de lire, celle des talents. Et qu'est-ce qu'il dit au travers de tout cela? Qu'est-ce qu'il essaye de nous livrer? C'est non pas une date, ni même une période, mais simplement un manuel de savoir-vivre à l'usage des chrétiens qui attendent le retour du Seigneur. Rien de moins, rien de plus. Avec comme mot-clé, on pourrait dire, la patience, la fidélité, la confiance, l'engagement. Alors la parabole, on l'a lue tout à l'heure, on peut la rappeler très très vite avant de regarder un peu plus en profondeur tel ou tel aspect. Mais la parabole en elle-même, bon, c'est l'histoire de ce maître qui confie mieux que ça, qui donne ses biens, une partie de ses biens, à ses serviteurs avec un mandat. Il leur demande de faire fructifier le capital qu'ils ont. Deux s'acquittent de la tâche avec succès. Et puis l'un, le dernier, cache son argent dans un trou. Ce qui n'est pas forcément une stupidité, puisque la loi à l'époque prévoyez que si l'on enterrait de l'argent qu'on vous avait donné qui ne vous appartenait pas, si vous l'aviez enterré, puis qu'un jour on vous le volait, vous n'étiez pas responsable. C'est un petit peu comme si on vous a donné de l'argent que vous avez mis à la banque. Si la banque est attaquée, vous n'y êtes pour rien. Mais n'empêche qu'il va lui être reproché de ne pas avoir utilisé le capital qui lui avait été donné. Et puis, nous l'avons lu, le maître sanctionne, félicite les deux serviteurs qui ont bien travaillé, et puis à des paroles très dures que nous n'aimons pas entendre, mais qui sont pourtant là, sur ce serviteur qui n'a rien fait. Alors, cette parabole nous dit des choses, et j'aimerais nous y attarder pendant quelques instants, sur Dieu et sur nous. Et c'est important peut-être de la relire un peu dans cette perspective. La première des choses, si vous avez bien entendu que le maître représente Dieu et que les serviteurs c'est nous, la première des choses, c'est que le maître fait confiance à ses serviteurs. Et réfléchissez-y 5 minutes. Dieu, si grand, si majestueux, si insondable, enfin bref, Dieu, fait confiance au petit bout d'homme ou de femme que nous sommes les uns et les autres. Il nous fait confiance, c'est-à-dire qu'il croit en nous. Nous n'avons pas trop l'habitude d'entendre cela, mais Dieu est le plus grand des croyants qu'il soit, parce qu'il croit en nous. Il investit en nous et il nous fait confiance. La seconde chose, c'est que Dieu est généreux avec nous. Alors peut-être que nous n'avons pas la même conception de la générosité que Dieu a. Et peut-être que nous, la générosité, ça serait plutôt quelque chose qui s'exprime avec un certain nombre de zéros dans la collecte, par exemple, ou sur notre compte en banque. Dieu est généreux avec nous. Et quand ce bon vieux cantique nous rappelle de compter les bienfaits de Dieu, c'est une manière pour nous de nous rendre compte que Dieu a été, est et continuera d'être généreux. Parce qu'il nous a donné des tas et des tas de choses. Alors oui, avec des moments difficiles, ça, c'est sûr, il n'empêche. Alors les plus spirituels parmi vous vont dire, oui, la plus grande générosité que Dieu m'a donnée, c'est de m'avoir pardonné mes péchés à la croix par Jésus-Christ. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre marche, qui sont là aussi des signes de la générosité de Dieu. Cette générosité, la parabole la montre bien, parce que des gens plus savants que nous ont calculé que le premier qui recevait 5 sacs d'argent, c'était l'équivalent à peu près d'1 million d'euros. Et celui qui a reçu le moins, c'était 200 000 euros. Dans tous les cas, moi je suis preneur. Dans tous les cas. De cette manière-là, la parabole nous dit que le Dieu que nous avons est un Dieu qui ouvre son cœur et qui nous donne en abondance. Et puis un petit détail qui ne s'invente pas, c'est que Dieu, dans la parabole, donne vraiment. Le verbe qui est utilisé, c'est celui qu'on utilise dans l'héritage, c'est-à-dire quand la personne est morte et qu'on transmet à son successeur tel ou tel bien. C'est ce verbe-là qui est utilisé. Ça veut dire que ce que Dieu me donne, il ne me le reprend pas. C'est à moi maintenant. C'est de lui et il me le donne pour que j'en jouisse et que je l'utilise. Mais, et c'est l'autre point que je trouve assez extraordinaire, et que cette parabole nous dit de Dieu, c'est qu'il donne à chacun selon sa capacité. Tout le monde n'est pas capable d'eux. Et d'ailleurs, il n'est pas demandé à tout le monde d'être ceci ou cela. Mais ce qui est important, et ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir savoir que ce que Dieu me donne à vivre, ce que Dieu me demande de faire, c'est parce qu'il sait que je suis capable de le faire et de le vivre. Parce qu'il me connaît. Il sait de quoi je suis fait. Il sait mes fragilités, mes limites, mais il sait aussi mes capacités. Et puis la dernière chose, c'est qu'il s'absente. Et ça, ça nous parle peut-être aussi. Parce qu'à certains moments dans notre existence, nous pouvons avoir ce sentiment que Dieu n'est pas là. Que Dieu est aux abonnés absents. Que Dieu ne répond pas, qu'il est sourd à nos prières. Que Dieu nous laisse tomber. Et l'Écriture nous donne quelques exemples de cela. Pensez par exemple à Marie avec son frère Lazare. Elle a demandé à Jésus de venir et Jésus n'est pas venu tout de suite. Et quand Jésus arrive, Marie lui dit « Seigneur, si tu avais été là !» Pensez aux disciples d'Emmaüs qui cheminent tournant le dos à Jérusalem et à la communauté et qui sont dans la déception, dans l'amertume, et qui ne se rendent pas compte, jusqu'au moment où leurs yeux vont s'ouvrir, que Jésus est pourtant là. Alors oui, nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est absent. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Il est là. Pourquoi ? Parce qu'il l'a promis tout simplement. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis de nous, qu'est-ce que ça dit ? Ben ça dit que Dieu nous fait confiance, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais que nous sommes appelés à la responsabilité, à la liberté. Vous avez remarqué, même si les paraboles ne disent pas tout, mais qu'il leur donne et puis débrouillez-vous. Dieu a donné à chacun d'entre nous, et alors en français c'est bien parce que le mot talent, ça joue sur tous les niveaux, Dieu a donné à chacun d'entre nous des capacités, des dons. Allons-y, mettons-les en œuvre, exploitons-les pour la gloire de Dieu, mais exploitons-les. Qu'est-ce que ça dit de nous aussi ? C'est que nous ne sommes pas traités injustement. Nous ne sommes pas traités injustement. Dieu n'est pas injuste avec nous. Et il faut donc peut-être commencer à arrêter d'avoir ce regard quelquefois un peu envieux, jaloux sur l'autre qui est que. Non, 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 non. Dieu est juste et bon. Et il nous appelle tout simplement à marcher selon la part qui nous est donnée en suivant ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, par exemple, ne pas aller au-delà de ce à quoi nous pouvons prétendre. Tout le monde ne peut pas être Billy Graham, tout le monde a la référence. Mais heureusement. Et tout le monde ne peut pas être non plus cette petite souris, je parle par image, moi aussi, qui va dans tel ou tel endroit, tel ou tel milieu, et qui est à sa manière le témoin de l'amour de Dieu dans telle ou telle situation. Et puis ça nous dit autre chose au travers de ce troisième serviteur. Vous savez, quand il revient et qu'il rend compte, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je savais. Je savais. » Alors, je ne sais pas si vous avez saisi à la lecture du texte l'ironie de la réponse du maître. En réalité, il avait ce qu'on va appeler une fausse croyance, qu'il avait érigée en certitude, et il avait basé son fonctionnement sur une fausse croyance. Je vais peut-être vous surprendre, ce n'est pas mon objectif, mais moi, je me méfie de ceux qui savent ce que Dieu veut. L'Écriture elle-même le dit. Qui a connu le conseil de Dieu ? Alors oui, nous savons un certain nombre de choses sur Dieu, suffisamment pour marcher et continuer le chemin. Mais il y a une part immense, c'est un peu comme un iceberg, de choses que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas de la part de notre Dieu. J'ai eu peur, là aussi. N'ayons pas peur de Dieu. Le craindre, oui, c'est-à-dire le respecter, le prendre au sérieux, si vous préférez. Mais Dieu n'est pas le père fouettard que certains ont bien voulu nous dépeindre. Il est ce Dieu bon qui nous fait confiance, mais aussi qui nous demandera, je l'ai dit tout à l'heure, des comptes. Alors, quelques questions que ce texte pose et que je voudrais aborder avec vous très, très, très rapidement, sans avoir la prétention de les exploiter toutes. D'abord, concernant l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'avenir ? Rien. Enfin, pas tout à fait. Le Seigneur reviendra. Ça ne se passera pas forcément de façon très simple. On l'a dit tout à l'heure. Mais l'avenir ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est le présent. Et vous l'avez vu dans le texte. Quand Jésus répond à la question, il dit, ce sera comme. Il parle par image, par analogie. Mais il rappelle que personne ne sait. J'aime bien, moi, cette phrase du philosophe Edgar Morin. Hors contexte, et en tout cas sans rapport avec notre texte biblique, mais que je trouve être finalement d'une profonde vérité, qui dit « Il faut s'attendre à une seule chose, c'est de l'inattendu. » C'est de l'inattendu. Dieu est-il injuste ? La réponse est non. Et l'Écriture dit même qu'il ne nous traite pas comme nous le méritons. Alors oui, il peut y avoir de l'inégalité, 5 sacs, 2 sacs, 1 sac, mais pas de l'injustice. Et peut-être que nous avons à réfléchir aussi sur notre propre façon de concevoir justement la question de la justice et de l'égalité. Dieu est-il un maître dur ? Je l'ai dit, il ne nous traite pas comme nous le méritons. Mais Dieu attend-il quelque chose de nous ? La réponse est oui. Et ça peut se résumer de façon assez rapide. Je pense à Paul, dans la première épître aux Corinthiens, qui dit finalement, ce qu'on attend, c'est que le serviteur de Dieu accomplisse fidèlement la tâche qui lui a été confiée, agir comme Dieu le lui a demandé. Et vous avez peut-être en mémoire la finale de l'évangile de Matthieu et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà ce qui nous est demandé. Alors c'est dit d'autres manières aussi dans les évangiles, être par exemple le sel et la lumière, c'est-à-dire ce qui va donner du goût, ce qui va répandre, on parle encore par image, la bonne odeur de Christ, par notre comportement, par notre attitude, par notre silence quelquefois, par notre esprit pacifique. Ou alors, si on veut un slogan, marcher en pratiquant la justice, en aimant la miséricorde et en marchant humblement avec notre Dieu. Ce qui revient à vivre d'une manière digne de l'évangile qui nous a été adressé. Notre fidélité est la réponse à la fidélité de Dieu. Et je vous laisse juste ces versets devant vous, parce que c'est bien de savoir que si Dieu attend de nous un engagement, lui s'est engagé pour nous. Le premier, c'est notre pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'autre engagement, c'est la victoire dans l'épreuve. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Notre sanctification. On pense qu'il faut faire des tas et des tas et des tas d'efforts. Alors oui, mais ultimement, notre sanctification, elle est là. Regardez la finale de Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. C'est Dieu qui conduit. Et que tout votre être, esprit, âme, corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Quand nous serons dans la présence de Dieu, soyons assurés d'une chose. Notre perfection, notre sainteté donc, ne viendra que d'une seule chose. L'œuvre de Christ qui nous aura revêtus de son œuvre accomplie à la croix. Et alors, eh bien, j'espère que chacun d'entre nous entendrons cette parole du Seigneur qui nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Pas la peine de se hausser du col. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître.